santé, c'est votre avenir.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
Il est 15h ici à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter la voix de l'Amérique. À ce micro, Mouhamadou Oumfa, pour vous présenter un bulletin d'information. Au Burkina Faso, le régime de transition a rendu hommage ce dimanche à Ouagadougou à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987. Le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a un an, a présidé une cérémonie accompagnée de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institutions. Le capitaine Traoré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue après avoir présenté le décret adopté début octobre et le Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Il a ensuite procédé à la pose d'une première pierre, marquant le début de la construction d'un mausolée sur le même site consacré au père de la révolution burkinabé et à ses 12 autres compagnons tués avec lui. En Ouganda, des attaques à la bombe contre des églises par des djihadistes de la milice ADF, Forces démocratiques alliées, ont été déjouées ce dimanche à environ 50 km de la capitale Kampala, a affirmé le président Yoweri Museveni. Deux engins explosifs que des ADF, rebelles ayant prêté allégeance au groupe État islamique, prévoyaient de poser dans les églises de Kibibi ont été signalés à la police et désamorcés, a écrit sur X, ex-Twitter, le chef de l'État ougandais. Un peu plus tôt dimanche, Yoweri Museveni avait déclaré que les forces ougandaises avaient effectué la veille des frappes aériennes contre les positions des ADF en RDC voisine. Il semble que de nombreux terroristes ont été tués, a-t-il écrit sur X, sans donner plus de détails. En RDC, 7 membres d'une famille sont morts calcinés dans la nuit de samedi à dimanche dans un incendie à Goma. L'incendie s'est déclaré vers 23h heure locale, 21h GMT, dans le quartier de Katoyi, selon les témoignages des voisins qui ont affirmé être venus après des cris de détresse lancés par les occupants de la maison en feu. Selon ces témoins, la maison était fermée à clé de l'extérieur alors que le père, la mère et les enfants s'y trouvaient. Nous attendons les résultats de l'enquête pour en savoir plus, a déclaré Georges Bouchou, chef de quartier. Les éléments en notre possession font état d'un incendie criminel parce que l'on a demandé aux voisins s'il y avait de l'électricité dans le quartier. Ils ont dit non, dont l'hypothèse du court-circuit est écartée, a déclaré Guilin Siasoua, un responsable local de la police. Et toujours en RDC, au moins 28 corps ont été repêchés et des dizaines de personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une baleinière vendredi sur le fleuve Congo dans le nord-ouest du pays, selon un responsable provincial. Une baleinière qui quittait Mbadaka pour le territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur a fait naufrage dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire est de 28 corps repêchés, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et les recherches continuent, a déclaré Crispin Poutou, ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur. Le nombre total des passagers ayant pris place à bord de l'embarcation n'était pas encore établi. En l'absence du document reprenant la liste des passagers qui a disparu, a expliqué le ministre Mputu.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a mis en garde les protagonistes des récentes élections au Libéria contre toute proclamation prématurée de victoire et a prévenu qu'elle sévirait contre les instigateurs de violence. Les Libériens ont voté le 10 octobre pour choisir le successeur de leur président, George Weah, favori pour sa réélection, ainsi que leur nouveau parlement. Le code des comptes des voix est toujours en cours, mais la commission de la CEDEAO a été informée que certains acteurs essayent de se déclarer prématurément victorieux ou d'exercer des pressions indues sur la commission électorale, a écrit dans un communiqué ce dimanche l'organisation régionale dont fait partie le Libéria. Au Burundi, au moins 4 enfants ont été tués et 15 autres blessés dans l'effondrement ce dimanche dans le sud du pays d'une église à la suite de pluies diluviennes, selon une source locale et un média d'État. Une forte pluie accompagnée de vents très violents a commencé à tomber vers 7 heures dimanche sur Kiyangé, dans le sud du Burundi, près de la frontière avec la Tanzanie, a déclaré Espérance Inakurundo, membre de l'administration locale. Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir écouté. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, l'info, c'est sur notre site web, voafrique.com. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Mandakis avec vous ce soir pour aborder les implications religieuses dans le conflit entre Israël et le Hamas. Ce conflit qui perdure depuis des décennies va bien au-delà des questions politiques et géopolitiques. Il comporte également des dimensions religieuses profondes qui influencent les perspectives et les dynamiques en jeu. Dans cette émission, nous explorons comment la religion joue un rôle crucial dans ce conflit et comment elle peut à la fois être source de division et d'espoir pour la paix. Encore une fois, bienvenue. Deux invités seront avec nous pour aborder ce sujet complexe, le père Grégor Prijotko de l'Université Paris-Sud Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Notre deuxième invité, Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattan College. Bonsoir, professeur Mbodj.
Bonsoir.
Je commence avec vous. L'attaque du Hamas contre Israël a eu lieu pendant le Shabbat, le jour de repos hebdomadaire juif, un jour sacré, n'est-ce pas? Comment vous percevez l'impact sur les communautés juives?
Il est certain que le symbolisme d'attaquer le jour sacré d'une religion est une sorte d'attaque frontale à cette religion. Mais en même temps aussi, nous ne faisons pas beaucoup d'illusions dans l'histoire, en tout cas nous autres historiens, car nous savons très bien que les conflits souvent ne connaissent pas de répit ou de trêve à l'occasion de ces moments sacrés. Et pour rappel, dans cette zone, il y a déjà ce qu'on a appelé la guerre du Yom Kippour, il y a déjà ce qu'on a appelé la guerre du Ramadan. Donc, ce sont des moments où, finalement, les intérêts politiques des belligérants l'ont emporté sur les considérations religieuses. Mais ça n'empêche qu'effectivement, et en particulier pour des juifs qui ne sont pas, disons, en Israël, le symbolisme est beaucoup plus frappant, disons, que peut-être si on était en Israël et où peut-être on n'était pas dans l'illusion que le pays ne serait pas attaqué dans une période religieuse.
Merci Mohamed Mbodj. Nous avons voulu savoir comment les différentes communautés religieuses du monde réagissent à cette attaque du Hamas contre Israël. Nous avons posé cette question au père Grégor Prijotko que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone tout à l'heure.
Alors, il est vrai, Eric, que le début de cette guerre, suivant l'expression utilisée par le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, rappelle une explosion d'un volcan. C'est l'expression qui est utilisée par le chef des catholiques de la Terre Sainte. Et donc, il est vrai que cette explosion de conflit sanglant et terrible pour tout le monde, les dirigeants chrétiens de la Terre Sainte se sont réunis tout de suite pour pouvoir faire un communiqué tous ensemble. Donc il s'agit de trois patriarches, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, qui se trouvait à Rome au début du conflit, le patriarche Théophile III, patriarche orthodoxe, et le patriarche Nouran Ier, c'est le patriarche arménien, ainsi que d'autres leaders des confessions chrétiennes qui sont à Jérusalem, ont fait un communiqué le jour même en marquant l'importance de sauvegarder pour les religions ce statu quo, c'est-à-dire cette défense juridique qui existe depuis 1757, accordée aux religions chrétiennes, notamment aux autres religions religion par l'Empire ottoman, comme base de déjà de cette entente religieuse. Il est vrai que pour les chrétiens, dont les structures sont très hiérarchisées, il était plus facile de s'exprimer d'une seule voix. Et ce communiqué est sorti tout de suite, le jour même de cette terrible attaque. Concernant les autres religions, également donc le grand rabbin de Jérusalem, Shlomo Amar, il a fait une intervention en invoquant Dieu en tant que source d'espérance et en demandant la paix, il a proclamé un jeûne particulier et les prières sur tout le pays, donc pour tous les juifs, pour qu'ils puissent prier et jeûner afin que cette guerre terrible cesse. De la part des musulmans, donc on sait qu'il n'y a pas de l'islam unique, donc il y a plusieurs branches qui quelquefois nous s'entend pas très bien, donc on sait que suivant les pays il y a eu des réactions différentes. La majorité toutefois des pays musulmans se sont exprimés contre cette attaque. Les pays arabes majoritairement sont hostiles au Hamas. Mais leurs réactions ont été tardives, quelquefois on pourrait dire tièdes et disparates. Donc le roi de Maroc a appelé à une tenue d'urgence d'une réunion de la Ligue arabe pour discuter sur les questions de la sécurité dans cette zone géographique. En ce qui concerne les autres pays musulmans, c'est surtout l'Iran et l'Afghanistan qui soutiennent le Hamas dans cette attaque. Le gouvernement taliban d'Afghanistan même s'est proposé de mobiliser ses forces pour aider donc le Hamas dans cette guerre contre Israël. Les autres pays comme la Turquie ou le Qatar ou encore l'Égypte se sont proposés comme les médiateurs dans ce conflit, mais pour l'instant nous voyons que le conflit est en pleine ébullition et c'est très compliqué d'envisager quelque chose au court terme en tant que solution de ce grand conflit.
La nomination du patriarche de Jérusalem en tant que cardinal est un événement rare. Cela soulève des questions sur les implications de cette décision pour les relations entre l'Église catholique et les communautés chrétiennes intersaintes.
Exactement. Donc, après son élévation au rang du cardinal le 30 septembre dernier, donc le patriarche latin, sa béatitude, Monseigneur Pizzaballa, se trouvait à Rome car c'était le synode des évêques qui sur la synodalité qui a lieu actuellement à Rome. Donc, il a quitté le synode pour rejoindre son troupeau. C'est vrai que la nomination du patriarche latin en tant que cardinal, ça marque aussi la préoccupation de Saint-Siège dans les pays, disons, où la question de la stabilité ou les questions de l'Église qui subit des persécutions importantes ou tout simplement la question d'instabilité politique, cette nomination est très importante parce que un cardinal, c'est quelqu'un qui est un collaborateur vraiment intime du pape. Donc, le cardinal Pizzaballa, son élévation au rang de cardinal, ça marque cette attention de Saint-Siège par rapport à tout ce que se passe en Terre Sainte. Et le cardinal, désormais, il va vraiment resserrer ses liens qu'il pouvait avoir avec les églises locales et le Saint-Siège, surtout dans cette condition compliquée du point de vue politique et religieux.
Mohamed Mbodj, en quoi le conflit actuel entre Israël et le Hamas a-t-il modifié, selon vous, les dynamiques religieuses locales et internationales et quels sont les défis pour les leaders religieux dans ce contexte? J'ajoute une autre question. Comment ces leaders religieux abordent-ils la question de la violence et de la paix dans le contexte du conflit au Moyen-Orient?
Je répondrai à la seconde question d'abord. Il y a une condamnation unanime de la violence, et en particulier lorsqu'elle s'exerce contre les innocents. Mais à partir de là, il y a évidemment une sorte de hiérarchisation ou même de légitimation de la violence selon les groupes religieux. Et il est certain que de ce point de vue-là, cette sorte de condamnation unanime de la violence ne va pas très loin. Donc elle s'arrête un peu à la surface. Et de ce point de vue, on peut dire que c'est une sorte de cul-de-sac, en quelque sorte, dans cette perspective. Encore que, effectivement, dans le futur, lorsqu'il y a des négociations, lorsqu'il y aura effectivement une prise de langue pour, disons, apaiser la situation, ces leaders religieux peuvent être impliqués dans cette recherche. Pour répondre à la première question, il y a déjà une sorte de déstabilisation religieuse au Moyen-Orient qui n'est pas d'ailleurs celle qu'on connaissait depuis, disons, pas mal de temps, et je crois que mon collègue de l'Institut l'a déjà abordé et ou même effleuré. La nomination de ce cardinal, par exemple, latin, montre bien que l'Église, Rome, ne se satisfait plus de cette sorte de protection attendue des États occidentaux et d'intermédiation entre ces États occidentaux et Israël quant à la protection des intérêts, disons, chrétiens, en particulier des intérêts donc du Vatican dans ce domaine-là. Donc on sent un peu que la montée de la fièvre religieuse et de l'activisme religieux en Israël inquiète les leaders de l'Église en Occident, et c'est pourquoi peut-être le pape a élevé le patriarche latin comme cardinal. Mais d'une manière générale aussi, je veux dire que il ne faut pas se faire d'illusions. Le Hamas, par exemple, est un groupe séculaire. C'est une branche des frères musulmans. Ils ont beau s'appeler frères musulmans, en fait c'est une branche séculaire plutôt qu'une branche disons musulmane combattante. Ce serait plutôt d'ailleurs le djihad islamique de l'autre côté qui est son ennemi, qui est son rival, et quelquefois il collabore, qui serait plutôt le porte-flambeau de l'islam dans cette région. Donc le Hamas est plutôt un groupe qui serait plus séculier, plus nationaliste, traditionnel nationalisme arabe, avec des élites qui sont passablement occidentalisées, disons, en quelque sorte. Et ce qui fait que je ne pense pas qu'il y ait une sorte d'emprise religieuse sur leurs actions. Et donc, par retour, une influence d'une autorité religieuse sur leurs actions. Le fait même qu'ils aient, que la Hamas ait pu s'allier, par exemple, à l'Iran, qui est une chapelle religieuse différente du sunnisme qui domine là-bas, montre bien qu'ils ne correspondent pas au clivage religieux traditionnel, et probablement ne suivront pas ce qu'on peut appeler des directives religieuses d'une quelconque autorité, encore que cette autorité n'existe pas en islam actuellement. La deuxième chose par rapport à cet émiettement du panorama religieux, c'est aussi l'intervention des milliers évangélistes américains et autres qui, dans ce Moyen-Orient, un tout petit peu attisent le feu pour faire venir le royaume de Dieu le plus rapidement possible en utilisant beaucoup de méthodes, et en particulier en soutenant de façon très enthousiaste, de façon très politique, et en influençant le gouvernement américain. Donc ces groupes soutiennent les nationalistes religieux israéliens jusqu'aux bouddhistes qui souvent donc peuvent être accusés de créer des incidents, en particulier sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, et où vraisemblablement une grande partie de la population palestinienne s'estime être attaquée dans ses propres ressorts, dans son jardin secret, et en quelque sorte ça aussi c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, cet activisme religieux puis aussi de ce qu'on doit pouvoir intégrer dans ce domaine. Donc c'est plus compliqué que simplement des juifs et des musulmans, et de l'autre côté des chrétiens qui regardent l'affaire ou qui essaient de faire la paix entre les deux. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Et très brièvement, encore une fois, vous, professeur Mbodge, comment les textes sacrés et les traditions religieuses des deux côtés du conflit sont-ils interprétés de manière à soutenir ou à promouvoir la compréhension mutuelle, la réconciliation et la paix?
Fondamentalement, l'islam, la chrétienté et le judaïsme partagent une certaine vision du monde où la paix, l'amour de Dieu, la coexistence avec les voisins, au sens physique du terme comme au sens, disons, spirituel du terme, est érigée en règle. Donc, de ce point de vue-là, les écritures sont très claires en quelque sorte, mais évidemment, il y a une interprétation. Et les écritures sont portées par des hommes, et ces hommes sont animés par des ambitions politiques, par des visées politiques, par des visées nationalistes, qui font que souvent ces principes qui auraient pu être la base d'une coexistence pacifique et paisible sont détournés pour en fait justifier la violence. Je me souviens par exemple d'une fameuse intervention de David Ben-Gurion, donc le fameux fondateur, un des fondateurs de l'État d'Israël, où il disait que au fond, pourquoi les Arabes devraient-ils accepter les Juifs, devraient-ils accepter les Israéliens? Parce que les Israéliens ont été choisis par Dieu. Ce Dieu n'est pas celui des Arabes, entre guillemets des musulmans. Donc, on ne voit pas pourquoi on peut convaincre les musulmans ou les Arabes d'accepter Israël comme ça, simplement parce qu'il y a des écritures qui le disent, surtout qu'ils ne font pas référence dans cette citation, il dit qu'ils ne font pas référence au même Dieu. Donc, on voit là qu'effectivement, pour nous, observateurs de l'extérieur, nous les appelons les religions abrahamiques et nous pensons que les fondements sont les mêmes, les caractères, c'est-à-dire les prophètes sont les mêmes dans leur écrasante majorité, mais lorsqu'il s'agit maintenant de toucher à la chose politique, de toucher à l'ethno-nationalisme, ces textes sont mis au rancard ou bien sont simplement utilisés comme moyen de mobiliser les siens et pour achever donc une sorte de violence politique qui souvent prend des allures religieuses, mais pas tellement. Je pense que c'est dans les escarmouches du début qu'il y a peut-être une sorte de coloration religieuse, mais lorsqu'il s'agit de la guerre féroce, disons, telle qu'elle se mène actuellement, les nuances religieuses, les références religieuses disparaissent.
On va écouter également le père Grégoire sur les textes sacrés et les traditions religieuses.
Les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens conçoivent ces textes de Lévitique ou autre, en tant que les expressions des éléments qui ont été liés à un contexte politique ou religieux, surtout politique, des invasions, des déportations, etc., dans un contexte historique particulier, donc cela relève de passé. Il n'y a pas de lecture fondamentaliste chez les chrétiens de ces passages-là. Ça appartient à l'histoire désormais liée à l'histoire propre de peuple juif qui devait survivre dans les conditions très, très difficiles et compliquées, comme nous le savons. Chez les juifs aussi, il y a une différence d'interprétation de ces textes. La plupart, quand même, aussi les classent dans le passé historique, donc il n'y a pas d'appel à la violence. La preuve que le grand rabbin de Jérusalem, il appelait à la justice du Très-Haut, mais en vue de la paix, et son message était porté sur le désir de la paix et la prière. Et le jeûne que tous les Juifs ont commencé pour Israël sont tournés vers la paix. Donc il n'y a pas d'appel à la violence. En ce qui concerne les courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Dans la plupart de cas, les textes, parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a 6300 versets, où à peu près 300 en citent au combat ou à la violence, et il y a que 5 textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi. Mais encore une fois, les interprétations dans la majorité des courants musulmans sont de genre spirituel. Par exemple, on cite un combat spirituel, c'est nos péchés ou nos faiblesses que nous avons à éliminer, et c'est nos péchés qui sont nos ennemis. Mais hélas, il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets, et donc veulent ou désirent les appliquer à la lettre. C'est par exemple...
Professeur Mbodj, il nous reste très peu de temps. Existe-t-il des initiatives interreligieuses visant à atténuer les tensions et à favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés dans la région? En une minute.
Oui, ça va venir de secteurs où on ne s'y attendait pas, comme le djihad islamique, qui certainement va essayer d'atténuer le jeu tout en supportant le Hamas de façon symbolique, mais aussi en essayant de rassembler les Palestiniens autour d'idéaux qui peuvent être manipulés, qui peuvent être négociés et qui en particulier peuvent viser la paix. L'Arabie saoudite, en tant que, disons, fils aîné de la maison musulmane, certainement va essayer de jouer aussi ses cartes, d'autant plus qu'elle s'est rapprochée récemment d'Israël, et Qatar aussi qui jouit de bonnes relations, en particulier avec les États-Unis, et peut aussi intervenir dans ce sens-là, évidemment du côté musulman. Du côté juif, il est certain que l'appel, l'État juif n'est pas un État religieux. La plupart des Israéliens ne pratiquent pas la religion, ou en tout cas disent qu'ils ne la pratiquent pas de façon assidue. Donc d'une certaine façon, la portée de l'intervention religieuse des rabbins en Israël est souvent moins forte qu'on ne le pense à l'extérieur, et il est peut-être certain que de ce point de vue-là, ces autorités, en particulier en concordance avec le cardinal latin, le cardinal donc de Jérusalem, ils peuvent effectivement à toi essayer de calmer le jeu, mais pour l'instant, personne ne va les écouter encore pour quelques jours.
Merci. Professeur Mbodj, j'ai voulu savoir s'il y a des exemples de succès ou de leaders religieux, musulmans et catholiques, qui ont collaboré pour promouvoir la paix et la compréhension interreligieuse dans la région. Écoutez ce qu'en dit le père Grégoire.
Exactement. Déjà, souvenons-nous que le pape Saint Jean-Paul II a institué les rencontres d'assises où les différents leaders des communautés religieuses des religions du monde se rassemblaient pour pouvoir dialoguer ensemble. Et souvenons-nous qu'il y avait sous Benoît XVI la rencontre des deux leaders, donc le président israélien, le premier ministre israélien, le président palestinien, au Vatican, où le pape les a invités à prier ensemble, et où ils ont planté d'ailleurs un arbre d'olivier qui symbolisait ce désir de la paix. Mais cette paix s'est révélée très 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 fragile finalement, et actuellement le Saint-Père, aujourd'hui même, il a fait une intervention lors de son audience de mercredi, en appelant à la paix en Israël, en appelant tous les dirigeants à catalyser leurs efforts pour cette paix, et surtout épargner la population civile des deux côtés, ce qui est inadmissible. Donc, en ce qui concerne les réussites, je ne sais pas si vraiment ces rencontres d'assises, c'était des tentatives...
Voilà, nous sommes à la fin de cette émission de ce dialogue des religions. Merci au professeur Bodge et au père Grégoire pour vos contributions respectives. On parlait des implications de la religion dans le conflit Israël-Hamas. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.